Je suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Merci de nous choisir dans cette émission Club de la Presse. Les chefs des quartiers et des villages n'ont pas le droit de hisser le drapeau dans leur palais. Ce droit est réservé aux chefs cantons et les préfets sont appelés à rappeler à l'ordre les chefs quartiers et villages. C'est le ministre de l'Administration qui a tenu à faire ce recadrage hier à travers une note. Nous aborderons le sujet dans cette émission Club de la Presse de ce mardi 7 janvier 2020. Et nous aborderons certainement d'autres sujets liés à l'actualité. Et c'est avec mes confrères journalistes en studio avec moi. Bienvenue au club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Thomas Itek aussi d'ATV assure la mise en onde. Jérôme Dakoutia est à la mise en ligne. Je suis Pascal Loussou au micro. Salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Nekho, Radio La Paix à Takpame, Central FM à Sokodé, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou, Sky FM bien sûr Radio Courtoisie à Dapaon où vous nous suivez bien sûr en direct et vous comprenez sans doute que nous couvrons tout le Togo avec cette émission Club de la Presse. Vous avez aussi ce privilège de nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook. Et aussi, vous pouvez nous suivre alors sur nos radios partenaires en ligne, Ibn Radio et Radio Les Bénins. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays, le Togo, et aussi du continent africain. Nous n'oublions pas aussi le monde entier, puisque nous faisons aussi un clin d'œil sur l'actualité à l'heure du monde. Mais c'est avec nos confrères journalistes en studio, avec moi, il y a d'abord Adam Adronou qui est là. Adam, bonjour.
Bonjour Pascal, merci de m'avoir invité. Bonsoir, bonjour à tous celles et à tous ceux qui nous suivent sur la 93.5, la radio de la nouvelle génération.
Alors, dis bonsoir à la place de bonjour, c'est aussi de l'émotion. L'émotion surtout pour la nouvelle année.
Mais naturellement, c'est le lieu aussi de souhaiter les vœux meilleurs comme la tradition l'oblige à tous celles et à tous ceux qui nous suivent.
Merci d'avoir répondu à notre invitation.
C'est moi.
Et nous vous souhaitons aussi nos voeux réciproques de santé et de prospérité. Surtout, Eric Parkoudjo, Johnson ne nous dira pas le contraire. Eric, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour chers confrères, bonjour professeur, bonjour chers amis auditrices et auditeurs de Canal FM.
D'accord, j'espère que vous allez bien.
Alors, Pascal, nous venons d'entrer dans une nouvelle année et c'est avec beaucoup de plaisir que nous retrouvons nos auditeurs ce jour et, comme le veut la tradition, nous leur souhaitons à tous une bonne et heureuse année 2025, que le Tout-Puissant exauce l'ensemble de leurs vœux et que cette année soit une année de prospérité pour tous.
D'accord, merci beaucoup pour ces vœux. Et, Jean-Baptiste Attissot, bonjour.
Bonjour Pascal.
J'espère que vous allez bien.
Nous rendons grâce à Dieu. Nous sommes tombés, comme on le dit souvent, dans la nouvelle année, et avec le souffle de vie que Dieu nous a donné. Et nous profitons de l'occasion pour remercier tout d'abord le Créateur pour cette grâce qu'il nous a accordée et aussi profiter de l'occasion pour remercier vos auditrices et auditeurs qui, et ma foi, aussi font des observations que nous prenons en compte pour l'amélioration de cette émission. Et aussi et surtout, remercier les partenaires et les potentiels partenaires de notre organe Écho du Monde qui, ma foi, a fait son chemin l'année passée. Et cette année encore, cette nouvelle année, nous voudrions bien quand même passer de bimensuel, pourquoi pas devenir un bi-hebdo, parce que il y a évidemment des lecteurs qui tirent sur le site.
C'est un défi à relever.
Un défi à relever. Donc, nous tendons nos bras vers les potentiels partenaires pour qu'ils nous accompagnent, pour que notre lectorat soit étendu et plus fréquent.
Merci d'avoir répondu à notre invitation.
C'est avec plaisir.
Oui, mais Eric, vous avez salué le professeur tout de suite. C'est un lieu et place alors de Claude Assebotis, notre chroniqueur littéraire. C'est professeur Apedo Amatoguata qui est là. Professeur, bonjour.
Bonjour.
J'espère que vous allez bien, professeur.
Ben, ça va, on se maintient.
D'accord, et on se maintient, c'est l'essentiel.
C'est l'essentiel.
D'accord. Nous sommes déjà dans la nouvelle année, l'année 2025. C'est la première fois que vous retrouvez même les auditeurs du Club de la Presse. Et si vous avez un mot à leur endroit, professeur.
Ben, je ne peux que vous servir la formule du peuple Guin qui dit que le malheur passe au-dessus de nos têtes et que le bonheur descende parmi nous.
Et là, nous allons répondre à Amine.
Amine.
Merci. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur. Alors, professeur, nous vous accueillons en personne, comme le prévoit le format de cette nouvelle émission littéraire, dont l'esprit est de vulgariser les œuvres togolaises, que notre sensibilité de lecteur trouvera majeure, soit par leur expressivité, par leur originalité, par leur profondeur. Nous procédons par thématique, celle qui a convoqué votre œuvre, qui peut revenir sous d'autres angles, dans d'autres chroniques. C'est la thématique de la récupération de l'histoire dans la fiction togolaise. Et votre œuvre, La guerre civile des Apoutagas, a déjà fait l'objet alors de nos deux dernières chroniques où le consommateur, où le commentateur, j'allais dire, au chroniqueur Claude Assiobotis nous a expliqué que votre intention d'auteur n'est pas de reconstituer l'histoire d'Aného, mais d'en faire un prétexte pour d'autres messages d'envergure, n'en demeure que c'est une fiction historique. Alors, professeur, j'ai envie de vous poser la question. Quelles sont vos sources d'exploitation? Les enquêtes, est-ce alors des enquêtes ou des livres d'historiens? Lesquelles, ces sources d'exploitation sont exactement quoi?
Non, c'est l'histoire telle que écrite par les historiens, en plus des questions aux anciens d'Aného, du Pays Guin, par rapport à ces querelles interclaniques. Hein, et ces querelles, moi ça m'a toujours dépassé, mais pourquoi c'est des querelles, continuent des querelles qui datent d'il y a près de deux siècles, ou d'un siècle et demi en tout cas au maximum, encore aujourd'hui, alors que ceux qui occupaient ces fonctions-là ne sont plus vivants, ils sont décédés, le Guigny, le royaume Guin même a disparu, sous la colonisation, et intégré dans un ensemble multi-ethnique que les colons ont dessiné et qui s'appelle le Togo. Donc, toutes ces choses ont disparu, mais pourquoi encore ces querelles-là? Donc, c'est ce qui m'a poussé justement à écrire ce texte-là, et parce que je considérais que c'était terminé, qu'on faisait le bilan de nos erreurs du passé, mais deux ans après la publication de cette pièce de théâtre, une querelle encore éclatée. J'ai dit, quoi? C'est pas possible. Et à l'époque, je me souviens, c'est Radio Zéphyr, je crois, m'avait appelé pour m'interviewer à propos du bouquin. Et ils ont profité de la querelle qui avait ressurgi pour que je puisse mettre les points sur les i. Hein, parce que des chefs de clan puissent perdre leur temps, leur énergie à faire des querelles inutiles, alors que pendant ce temps, le pays est dans la misère, l'Aného, tout le pays est dans la misère, vous allez à l'Aného, il y a beaucoup de jeunes délinquants qui sont là, ils n'ont rien à faire, ils sont dans la drogue, les filles font de la prostitution et tout et tout, alors qu'il y a beaucoup de choses à faire intéressantes, mais on se perd dans des querelles inutiles qui ne font que dénigrer, détruire le pays Guin.
Professeur, on va s'intéresser à votre personnage, Agbodro Makankou, c'est ça?
Et
ce héros tragique dont on nous a dit qu'il symbolise le drame du héros solitaire. On nous a dit également que, contrairement aux autres personnages, c'est un personnage sorti sans doute alors du droit de votre imagination. Alors, professeur Apédouama, d'abord, pourquoi avez-vous choisi de donner un nom si époustouflant à votre héros?
Agbodro Makankou, ça veut dire en réalité que le bélier qui s'en fout de la mort, quoi. C'est ça, en gros, le nom. Agbodro Makankou. Bon, ou ben, parfois c'est Agbo Makankou. Bon, ça dépend des formules. Okay. Donc, c'est un personnage que j'ai essayé de prendre comme arbitre entre les camps en conflit, puisqu'il y a De Souza aussi qui est là, c'est-à-dire Tchatcha De Souza, qui alimentait les querelleurs en armes. Hein. Donc, c'est un peu l'histoire de notre petite sous-région, là, entre Anéro jusqu'à Ouida, pratiquement, à l'époque.
D'accord. Alors, justement, pour ce personnage, Agbodro Makankou, est-ce que ce n'est pas simplement Amma Togwata, ce personnage?
Non,
ça
bon.
Dit, ça dit peut-être, alors.
Quand il y a un héros, souvent, on dit que c'est moi. Non, c'est pas ouais. Moi. C'est un personnage de fiction. C'est une invention de ma part, en tant que tel. Donc, ce n'est pas moi.
D'accord. Nous le disons, peut-être, on se dit, peut-être que c'est vos actes manqués, vos refoulements, ou peut-être votre idéal de politique.
Bon, forcément, on a un message. C'est-à-dire que le message, c'est ce qu'ils font là, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Vous voyez, quand j'ai assisté à une émission à ce sujet, il y avait deux journalistes qui venaient d'Anéro. L'un était Lawson, l'autre, j'oublie le nom de famille, mais il était à Digo. Et le Lawson dit que sa maman était à Digo. Et la Digo dit que sa maman était Lawson. Je dis, voilà, nous sommes tous mélangés. Vous allez faire la guerre contre qui? C'est-à-dire, c'est contre soi-même, en fait. Puisque nous sommes tous mélangés partout. Donc, c'est ça, être une nation. Hein. Quand les gens disent souvent, Gendoua Agbo, le nous, les gens ne comprennent pas Agbo. Ils croient que c'est un portail pourri, bouffé par la mer, et ils s'en moquent, etc. Non, c'est un Agbo spirituel. Hein. C'est-à-dire, un portail spirituel. C'est-à-dire que toute culture est une fermeture. C'est ce qui vous distingue des autres. Les autres sont différents de vous. Donc, chez les Guins ont une fermeture par rapport aux autres, aux Éveux, aux Wati, à toutes les autres ethnies du Togo et d'ailleurs. Mais en plus, entre eux, il y a également cette fermeture, ces différents clans.
Hein?
Entre eux-mêmes, parce que ceux qui ne s'y connaissent pas, ils font des bourdes parfois. Vous vous souvenez que dans les années 80, fin 80, par là, il y a eu des complots, etc., des attaques de commandos, et on a dit que le grand responsable était un certain Latte Johnson. Tout le monde s'est mis à rire à Nero et tous les Guins. Ils ont dit Guin doit bouler nous, parce que ces deux noms sont incompatibles. On ne peut pas être Latte, un Lawson, et être Johnson en même temps. Donc il faut être Guin pour le savoir.
On sait que vous avez fait l'opposition politique et vous êtes sorti également des chapelles. À la page alors 38 de votre ouvrage, vous écrivez « Qu'est-ce que donc qu'un pouvoir sans l'argent et le soldat, sinon une forme de prostitution ?» C'est une pique. Alors, est-ce que c'est une pique que vous envoyez à nos amis de l'opposition sud-africaine et notamment togolaise?
Non, c'est-à-dire que c'est une réflexion sur le pouvoir. Si tu dis que tu as le pouvoir, tu dois avoir l'argent et le soldat. Sans, il faut les deux obligatoirement. La preuve, le problème d'Anéro, c'est ça. Anéro, c'est-à-dire le pays Guin, bon, c'est comme le fruit fourni. Hein? Je ne sais plus comment on appelle ça en français. La prune noire. Ah, mais c'est mes tchons, coucou, fifi. Donc, ça veut dire que tout le monde veut être chef. Le grand chef, même le roi de Gliji, il n'a plus l'autorité que les Bokon ont, n'importe qui veut n'importe quoi. Parce qu'il n'a pas la force régalienne pour les mater, pour les arrêter. Hein? Et c'est ça, vous voyez, que manquer de un pouvoir sans la force, bon.
C'est
zéro. C'est zéro. C'est-à-dire que là, on demande à ce que les gens eux-mêmes aient l'intelligence de comprendre qu'il faut respecter les coutumes, respecter les traditions, hein, et se respecter soi-même. Mais comme tu n'as pas la force, tu ne peux arrêter personne. Le déviant, tu ne peux rien contre lui. Tu peux même t'insulter, te cracher dessus, qu'est-ce que tu vas faire?
D'accord. Professeur, il y a aussi à la page 41 un passage qui ne manquera pas de provoquer le tollé parmi les chrétiens et parlant alors de Jésus. Vous dites, quel est ce Dieu si impuissant que des hommes mortels le clouent sur une planche et le tuent? Pouvez-vous nous expliquer alors le fond de votre pensée, professeur?
Non, ben, on nous apporte quelque chose de nouveau. Hein? Quand les premiers Africains étaient christianisés, on leur racontait cette histoire-là, on dit, mais ça étonnait, comment Dieu peut être faible comme ça et qu'on puisse le prendre et le clouer? Hein? Et comme ce discours venait en même temps que le dénigrement de nos croyances, ça fait que les gens ont pu parfois user d'ironie par rapport à ceux qui prétendaient nous apporter une croyance nouvelle tout en diabolisant les nôtres. On disait que c'est satanique. Les gens le disent encore aujourd'hui. Souvent, ouais, les Africains, ils remplacent le colon dans son discours colonialiste et méprisant. Hein, on dit, ah, m'trodine, ah, je me suis converti, donc vos trucs sataniques là. Mais c'est une erreur. Oui, c'est une erreur et de l'ignorance. Parce que ce personnage-là, cette déité qu'on appelle Satan, n'existe pas dans nos cultures. Donc on ne peut pas faire des choses sataniques. Hein? C'est-à-dire, c'est cela, quoi.
Mmh. Alors, professeur, je rappelle que vous avez aussi écrit une autre pièce historique dont le titre est « Les trônes sacrés jumeaux oui. ». C'est bien ça. Et je donne la parole maintenant à mes confrères. Je sais certainement que Eric a une question pour vous. Eric ?
Oui, je voudrais demander au professeur, par rapport à cet ouvrage-là, est-ce qu'il pense que nos difficultés aujourd'hui ont leur source dans le délaissement de nos traditions? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous absorbons ce qui nous vient d'ailleurs, nous délaissons nos traditions. Est-ce que c'est ça qui constitue aujourd'hui nos difficultés?
C'est la base, l'une des bases de nos difficultés. Parce que voyez-vous, aujourd'hui, dans ce monde mondialisé, la source de résistance, c'est les racines. Si vous n'avez pas de racines, vous ne pouvez pas résister. Parce que, voyez-vous, quand les gens dénigrent, les gens disent « j'ai reçu Jésus, patati patata, etc. » ou « je suis allé à là », bon, c'est d'abord parce qu'ils ne connaissent pas bien leur propre culture. Ils sont incapables de la défendre. Et d'ailleurs, toute la stratégie coloniale, hein, a été à l'époque, occupez-vous des enfants. Les adultes, ils ne pouvaient pas les changer. Parce qu'ils sont fermement ancrés dans leur culture. Occupez-vous des enfants, ils ne savent rien. C'est eux qui sont manipulables, c'est eux qu'on va changer.
Le roi Baudouin.
Voilà. Et ils ont réussi. Puisque aujourd'hui, on entend des Africains tenir le discours colonialiste contre nous-mêmes. Ouais, nous sommes devenus nos propres ennemis. Absolument. Donc, par rapport à tout cela, il faut que nous puissions interroger nos propres cultures et surtout être dans la création. Vous l'avez dit tout à l'heure, on ne fait qu'assimiler, recevoir. Tant que nous ne créons pas, ben on sera d'éternels consommateurs. Regardez dans ce studio, regardez dans vos maisons rétrospectivement. Qu'est-ce que le Togo a fabriqué? 64 ans d'indépendance, zéro, même pas une tête d'épingle. Mais c'est la honte absolue. Regardez, qu'est-ce que... Oh, des micros, mais c'est banal, tout ça, c'est génial. Même des étudiants fabriquent ça, les trucs en aluminium. Mais on ne fait rien. Donc, tant qu'on n'aura pas changé de système pour entrer dans l'industrialisation, on sera d'éternels consommateurs. Parce que c'est ça le pacte colonial. C'est-à-dire, le pacte colonial est ceci. Vous produisez des matières premières brutes et nous vous les transformons en produits industriels que vous nous renvoyons pour consommer. Je prends un exemple brut, bon, c'est un chiffre comme ça au hasard. Hein. Disons qu'on prend une tonne de, on vend une tonne de cacao à 1000 francs. Bon, eux, ils font du chocolat avec. La tablette, on le vend ça à 5000 francs. Vous voyez, qui est perdant? Est-ce qu'on ne peut pas faire le chocolat nous-mêmes? Le yaourt, tout ça, tout.
Puisque la matière première est déjà chez nous.
Ben alors!
Même le café.
Ben tout! Le phosphate, on ne peut pas faire de l'engrais? Les engrais phosphatés, on ne peut pas en faire. Voilà nos problèmes. Tant que nous ne serons pas dans la création, or c'est avec la création que nous pouvons résister à l'impérialisme aujourd'hui dans le monde. Hein? Et ceux qui n'arrivent pas, ils disparaissent. Parce que nos langues même disparaissent. Si vous ne le savez pas, parce que au début de l'année dernière, j'avais entendu, moi je connaissais déjà le problème, mais j'ai entendu une information sur RFI disant que plusieurs langues disparaissent dans le monde, une dizaine chaque année, et sur le front de la disparition sont les langues africaines, et ils ont même cité l'arlon du Togo. J'ai dit, ah quoi? L'arlon, c'est dans le Dani. Et c'est des... Non, c'est pas Arlon. Arlon. C'est des Igbo qui ont immigré là-bas. Les Arlon. Ils parlent la langue des Igbo. Et j'ai vu des gens, des jeunes qui parlaient, qui étaient Arlon. Je dis, est-ce que tu sais parler Arlon? Tous m'ont dit non. Mais yo, vos parents parlent Arlon? Ils disent oui, mais ils parlent ça entre eux seulement. Donc, vous les jeunes, c'est foutu. Parce qu'eux subissent une double influence. Une double phagocyto. C'est-à-dire que, avec le français, puis avec l'évé. Puis ils sont dans Nîmes là-bas, les évés sont majoritaires. Eux, ils sont une petite, un petit groupe ethnique. La langue disparaît. Et je formais des étudiants l'année dernière également sur ma thèse en 180 secondes. Et un étudiant aussi avait sur ce sujet-là, à propos des Sola, qui sont au nord avec la frontière de Bénin, que ça disparaît aussi. Donc vous voyez, tant que nous ne mettrons pas nos langues à l'école, je dis, mais toutes nos langues, hein, pas les langues qu'ils ont proclamées nationales. C'était déjà une erreur de désignation. Et l'Akpasso n'est pas national. Le Bassa n'est pas national. Donc, voyez-vous. Donc, il faut que dans chaque préfecture, les langues en usage puissent être enseignées aux primaires. Hein? Ce qui fait notre faiblesse. Nous ne connaissons pas bien nos langues, malheureusement.
Alors, d'accord. Et finalement,
rapidement, Eric,
la solution pour vous, c'est quoi?
Ben, la solution, c'est ce que je dis. Il faut que nous puissions être bien ancrés dans nos langues, que nous passons à l'industriel. Nous changeons de mode de système économique, rompre avec le pacte colonial et transformer nos propres produits ici, hein, plutôt que d'aller chercher...
Oui, mais c'est parce que nous n'avons pas la technologie. Ou
bien... La technologie, c'est sur Internet. Il n'y a plus de problème de technologie aujourd'hui. Vous achetez les choses, etc. Ce n'est plus un problème. Regardez, en 1960, la Corée du Sud, le Ghana et le Cameroun étaient pratiquement trois pays jumeaux. Au niveau de l'industrialisation, du goudron, de l'école et tout, 20 ans après... Corée du Sud, un pays développé qui vend Samsung, tout Togo, etc. Voilà, des gens qui ont compris qu'il fallait rompre avec le modèle colonial. Hein? Singapour, qui n'a même pas de matière première. Donc, ben, la technologie aussi, ça s'achète. Où on paie les gens pour venir, où les ingénieurs et à prix d'or, plutôt que de prendre n'importe qui pour faire n'importe quoi. Donc, c'est une politique. Si on a une vision, c'est ça qui nous manque en Afrique, on n'a pas de vision pour l'avenir. Parce que, voyez-vous, les gens à l'étranger, ce qu'ils font aujourd'hui, là, ils préparent déjà les choses pour 50 ans. Ils ne seront pas là, ils seront tous morts. Mais ils préparent demain. Mais nous, on ne le fait pas. Vous demandez aux gens, aux responsables politiques africains, chefs de tête, qu'est-ce que vous faites l'année prochaine, etc. Hein, j'irai à une conférence ici, je vais, etc. Non. Eux, ils parlent, oui, vous, les autres, vous parleront de projet.
D'accord. Oh. Merci beaucoup, professeur. Professeur Togota Pédouama, qui est resté égal à lui-même. Encore une question?
Oui.
Voilà, Isidore Colo, bonjour.
Bonjour, et bonjour à toutes et à tous. Bonjour au plateau.
Bonjour, Isidore.
Et c'est un plaisir pour nous là, de nous rencontrer sur un plateau. J'avoue que c'est l'un des rares critiques littéraires qui est aussi dans la production littéraire. J'en connais beaucoup qui n'ont jamais osé écrire ne serait qu'une seule œuvre. En cela, je vous dis chapeau. Et la contenance même de vos sujets, de vos thèmes, nous interpelle. Quel mot vous a piqué, quel mot je vous a piqué pour aborder ces thèmes qui divisent tant de clans?
Bon, vous savez, l'inspiration littéraire, artistique, ça vient toujours de très loin. Moi, je dis toujours que je suis le produit de toutes mes lectures, depuis le CP0, parti de Mamadou et Binota, jusqu'à aujourd'hui, ce que je commence à lire, la presse, tout ce que moi je lis. Ça, je lis tout, je lis dans tous les domaines. Mais quand vous voulez écrire, à un certain moment de mon existence, quand j'étais adolescent, J'ai lu certains ouvrages et puis l'un qui m'a le plus frappé, c'est Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, où le monsieur prend une seule brique, un pavé, un parpaing. Il consacre 50 pages. Moi, à l'école, on fait dissertation, déjà 2 pages, c'est déjà trop pour nous, c'est-à-dire rédaction à l'époque. On ne peut pas écrire plus que ça. Et lui, sur une seule brique, là, il écrit 50 pages. Description, telle, etc. Je dis, mais je ne peux pas faire ça. Et puis, avec tout le vocabulaire, etc., mais c'est terrible. C'est-à-dire que moi, j'avais envie d'écrire, mais en voyant ça, mais, ça m'a montré l'étendue du travail que j'avais à faire pour arriver à ce niveau-là, acquérir le bon vocabulaire, maîtriser la langue française et acquérir une culture générale, parce que les grands écrivains, pour moi, c'est ceux qui ont une grande culture générale, et tu ne lis pas seulement, tu apprends des choses, hein, et puis qui ont une dimension intellectuelle. C'est eux qui m'intéressent, les autres, pas tellement, parce que tu apprends quelque chose de ces gens-là, tu apprends au niveau de l'écriture, tu apprends au niveau du savoir, au niveau de leur interprétation de la société, et puis leur conception philosophique, etc. Que tu sois d'accord ou non, mais ça te permet de réfléchir. Et c'est en cela que, moi, la littérature est intéressante.
D'accord. Alors, on va finir rapidement.
Bientôt, une œuvre dans une langue locale.
C'est lui qui distribue la parole.
Pas du tout.
Voilà, professeur,
bientôt, si à tour de rôle, je répondrai à tout le monde.
On laisse Eric y aller, s'il te plaît. On laisse Eric.
Dans une langue locale.
Bon, c'est ma plus grande ambition. Essayer un jour d'écrire un texte en guingbé. Mais je n'ai pas encore le niveau parce que je manque de vocabulaire. Nous avons créé une académie du guingbé, hein, et des savoirs guin. Bon, le problème, encore une fois, quand j'ai parlé de l'école, c'est que nous ne maîtrisons pas bien nos langues. Nous les truffons de français. Parce que l'on a étudié en français. Une langue ne se maîtrise bien qu'à l'école, avec tous les mythes, la culture autour, etc. Moi, quand j'étais à la Sorbonne pour faire mes études universitaires à un certain niveau, à un moment, j'ai eu honte. Parce que je fréquentais tout le temps la bibliothèque et tout le savoir de ces blancs, les mythes et tout ça, gréco-romain, tout ça. Moi, je savais tout ça. Mais je me suis rendu compte que même quand les Blancs faisaient des débats entre eux, ils ne s'entendaient pas, c'est moi qui les appelais comme arbitre. Et je réglais le problème. Mais je me suis dit, mais chez moi, je ne connais même pas nos mythes. Je ne maîtrise même pas ma langue. Je dis, mais est-ce que c'est la faute à mes parents? Non, je dis non. Ils ne devraient pas savoir non plus, puisqu'on leur a pensé dans nos langues, etc.
Et mais est-ce que ce n'est pas le système éducatif même qui nous a formatés?
Ben, c'est l'école coloniale qui continue. Encore aujourd'hui, c'est une honte pour notre pays. Et même tous les pays africains, c'est l'école coloniale qui continue, c'est-à-dire avec interdiction de la langue et de la culture.
Vous avez suivi l'école d'un signal.
Oui, bien sûr, le signal, c'est ça, te faire honte de parler ta propre langue. Donc déjà, l'enfant, il est déjà complexé, vous voyez. Or, c'est une régression. Nos langues vont disparaître. Nos langues vont disparaître parce que quand on ne les utilise pas, si le français prend de plus en plus la place de l'anglais, ben, tôt ou tard, ça finira. D'abord, nous ne pouvons même pas prendre nos propres noms. Vous voyez, les prénoms, il faut qu'on se croit civilisé. Il faut donner un nom français ou européen aux enfants ou arabe. Hein. Je suis allé à Niamey, tout le monde, prénom et nom de famille arabe. Mais vous n'avez pas de prénom, qu'est-ce qui se passe ici, hein? Chez nous, quand des gens ont ça, c'est historique, c'est lié à quelque chose. Mais vous... Mais c'est grave, et en pleine terre d'Afrique, les gens, je dis, comment vous appelleriez-vous autrement? Et les gens ne savaient pas. Mais c'est terrible. D'accord. Et nous sommes chez nous, hein, nous ne sommes pas aux Antilles.
D'accord, merci. Non, merci beaucoup, professeur. Non, mais c'est la dernière question, Isidore. Rapidement. Oui.
Souvent, ils participent à des cafés littéraires. Est-ce que vos œuvres ont été soumises des cafés littéraires.
À plusieurs reprises. Oui, justement.
Merci beaucoup, professeur, d'avoir répondu à notre invitation. Et merci surtout d'avoir expliqué aussi un certain nombre de choses. Vous pouvez rester avec nous. Et puisque déjà à partir de midi, nous allons donner la parole à nos auditeurs. Et ils vont certainement revenir alors sur votre intervention et vous poser des questions. Et là, vous leur donnerez des réponses comme cela se doit. Merci, professeur. Alors, pour finir cette partie littéraire, je voudrais donner cette citation, surtout alors de Claude Assiobotis, Claude qui est notre chroniqueur littéraire, aussi conseiller, écrivain aussi, bien sûr, critique littéraire. Et Claude dit, « Dans un régime non démocratique, on n'agit pas, on s'agite. Là où on attend des résultats, on attend des bruits. » Alors, je répète, dans un régime non démocratique, on n'agit pas, on s'agite. Là où on attend des résultats, on attend des bruits. Alors, merci beaucoup, professeur, d'être passé alors dans cette émission. Alors, on revient en plateau pour continuer nos débats sur les sujets de l'actualité. Et je le disais déjà dans mes mots introductifs, il y a cette note alors du ministère de l'administration territoriale ou du ministre de l'administration territoriale que nous avons lue hier, Adam, concernant surtout des chefs traditionnels, notamment les chefs quartiers et des chefs de village qui érigent des drapeaux qui est l'un de nos emblèmes, bien sûr, dans leur palais. Et le ministre a tenu à faire un recadrage par rapport à cela et a demandé plutôt au préfet de faire assez de recadrage sur ce point. Alors aujourd'hui, la question est de savoir peut-être qu'est-ce qui peut amener les chefs traditionnels, surtout que la loi interdit déjà cela, qu'est-ce qui peut amener les chefs traditionnels à ériger les drapeaux dans leur maison?
Non, bon, vous savez, moi, c'est une question qui divise profondément l'opinion et qui, de mon point de vue, contredit carrément. Puisque lorsque nous remontons l'histoire, on nous a dit, au regard de certains aspects, manifestations, etc., qu'en réalité, le drapeau national, c'est un emblème qui, normalement, suscite l'adhésion de tous. Et partant de là, c'est vrai, nous reconnaissons que l'autorité peut prendre des prédispositions, des dispositions pour recadrer l'usage d'un emblème, ce qui est normal. Mais au-delà de ça, lorsqu'on nous invite à adhérer, à faire du drapeau national un symbole, en tout cas un patrimoine et un symbole, ou qui suscite en tout cas l'adhésion de tous, mais en même moment, on fait cette subdivision, moi je me dis qu'il y a un problème. Un problème dans la mesure où, voilà pourquoi d'ailleurs même je parlais de contradiction. Puisque cette décision, c'est vrai que les motivations plus loin, peut-être on aura d'autres communiqués qui puissent véritablement nous éclairer. Mais je me dis, un chef traditionnel, et lorsque vous prenez même la nomenclature d'ailleurs même des subdivisions traditionnelles, je pense que c'est également une autorité qui régente en tout cas un aspect de notre communauté. Mais lorsque nous voulons véritablement donc aller plus loin, est-ce qu'on nous dira, parce qu'il y a une école, il y a de l'enseignement, etc., qu'on puisse dire, voilà, cette école-là n'a pas peut-être l'effectif, n'a pas cette étendue donnée, qu'il faut lui interdire de pouvoir donc utiliser donc cet emblème-là, pourtant qu'on demande véritablement. Donc moi, je me dis, bon, jusqu'alors, je suis assez perplexe sur cette décision. On dit la maison, est-ce que les chefs traditionnels, les chefs coutumiers ou de quartier n'ont pas, en tout cas des bureaux à part, c'est leur maison qui constitue en réalité leur bureau et qui fait qu'ils essaient de régenter leur autorité là. C'est en ce sens que, mais quand on dit qu'ils érigent le drapeau dans leur maison, il faudrait quand même qu'on puisse donc remonter un peu plus loin le débat et dire véritablement, est-ce que ce n'est pas en tout cas une autorité installé là-bas, qui résout les problèmes de la communauté, là où il réside, est-ce qu'il faudrait véritablement dire c'est sa maison? Donc, tout le débat est là.
D'accord, ça vient de commencer. Tout le débat est là. Isidore?
Non, on a traversé les mœurs. Hein. Et ce que le ministre est en train de dire, j'y adhère 100%. Je prends seulement nos us et coutumes. Gain. Le chef quartier vient d'avoir écart. Le chef parti n'est pas une autorité politique. le chef quartier ne veut pas ériger un drapeau. Quand vous allez à Dito, Covidien ne met pas de drapeau dans sa, locale, dans sa maison. Non. Sauf le chef canton peut ériger un drapeau.
C'est la précision que le ministre a fait.
Évidemment. C'est ça, nos mœurs. Je passe sous le contrôle du professeur qui en sait beaucoup de choses. Non, ne traversons pas les choses. Ce qui fait que dans chaque quartier, vous n'arrivez pas à distinguer le chef canton du chef quartier. Ce n'est pas normal. Même les chefs traditionnels, les chefs vaudous, ils ont aussi leur drapeau. Noir, blanc, rouge. Ou bleu, blanc, rouge.
Pas forcément. Hein.
Non, moi, je t'en
seulement. C'est un exemple.
C'est un exemple. Quand vous avez ça.
C'est une enseigne.
C'est une enseigne. Voilà. On dit qu'il y a un couvent vaudou.
C'est ça.
Un chef quartier que nous appelons dans Gand et Gand ne peut jamais ériger un drapeau ni un emblème dans son quartier.
D'accord. Alors, mais Eric, qu'est-ce qu'il doit représenter le chef à travers, même d'ailleurs, quand on parle d'enseigne, qu'est-ce qu'il doit constituer, même d'ailleurs, d'enseigne aussi pour le chef quartier ou du village?
Moi, je considère la chose de cette manière. Lorsque vous avez le drapeau togolais, enfin, le drapeau, c'est pour montrer votre ralliement à la nation, tout simplement. Maintenant, si, tel que Isidore a chuté, pour mettre la distinction entre le chef quartier et le chef canton, on dit le chef canton peut avoir le drapeau togolais, oui. Le drapeau national. Maintenant, il faut chercher autre chose pour représenter le chef quartier.
Non, c'est de bouche à oreille.
Maintenant, non. Maintenant, ce qui se passe... Quand on parle de chef quartier, le chef quartier est lié au chef canton. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire que le canton
le chef du village.
Contient des villages, oui. Contient des quartiers. Maintenant, si on veut placer le truc à un niveau plus élevé, il y a également le maire, il y a le préfet. Et aujourd'hui, on a
le gouverneur.
Alors,
tu as trouvé un bon exemple. Je vais y revenir.
Eric, vous pouvez y aller.
Je pense que il faudrait, quand on interdit quelque chose, c'est qu'il faut apporter autre chose. C'est ma compréhension de la chose. Vous interdisez au chef quartier de mettre un drapeau chez lui. Ou bien dans, enfin, puisqu'il n'a pas de bureau, il n'a pas de quelque part où il travaille, il est chez lui, il travaille. Donc, mettre le drapeau chez lui. Alors, dites-lui, désormais, pour différencier les choses,
voilà ce qu'il faut.
Un symbole, peut-être. Pas du tout. Parce que pour moi, le drapeau représente la nation. Et quand tu as le drapeau, c'est que tu montres ton ralliement à la nation.
D'accord. Alors, Jean-Baptiste, est-ce que le chef quartier ou chef du village n'a pas aussi le droit d'avoir au moins un symbole pour représenter la nation, tel que Eric l'a dit?
Oui, je crois que le problème a scindé à plusieurs niveaux. D'abord, si on est en ville, dans les villes où pratiquement il n'y a pas de village, c'est-à-dire que nous avons les cantons, et puis dans ces cantons, les cantons au niveau des villes, et puis les villages, comment l'appelle-t-on, les quartiers, sont les quartiers qui, en quelque sorte, constituent la subdivision au niveau des cantons, quand on est en ville. Alors, à ce niveau, peut-être on peut leur interdire, par exemple, à Lomé, par exemple, on peut demander au chef de quartier de ne pas quand même s'identifier par rapport s'identifier au drapeau, mais au niveau du chef canton, ça peut être une nécessité.
Ça doit être une nécessité.
Oui,
en fait,
maintenant
c'est ce que la loi dit.
Oui, maintenant Puisque moi, j'ai essayé hier de lui lire la loi de 2007 sur la chefferie traditionnelle, on n'a pas quand même fait mention concernant qui doit ériger un drapeau, qui ne doit pas le faire au niveau des subdivisions. Quand on quitte le chef canton, chef de village, chef de quartier, il n'y a pas précision au niveau de la loi. Maintenant, si le ministre sort une décision, moi je crois que surtout dans les milieux ruraux, où quand nous quittons le chef canton, il y a des villages qui sont bien identifiés dans les milieux ruraux. Alors si on est dans les milieux ruraux, je crois que le chef de village doit aussi avoir son drapeau. Parce que, au fait, si peut-être ses administrés, le chef de village, ses administrés le connaissent son domicile, ce n'est pas le cas pour peut-être des étrangers qui vont ou bien qui arrivent dans ces villages-là, peut-être pour des questions diverses. Vous êtes étranger, vous arrivez dans un village, vous ne savez à qui vous adressez. Au moins, si vous avez le drapeau, ça vous indique que, ah, voilà le chef de village, le chef de la localité.
Il suffit de demander.
C'est ça. Non, si vous n'avez personne auprès de qui.
D'ailleurs, même si la langue, c'est une barrière comme la.
Alors, donc, c'est une référence, c'est une indication qui permet rapidement, peut-être aux étrangers, de savoir qui est le chef de la localité et ils vont se diriger vers lui et demander une résolution de leur problème. Donc,
effectivement, professeur. C'est quoi la norme?
Non, oui, la norme se décide par celui qui a le pouvoir ou ceux qui ont le pouvoir. C'est-à-dire, ça, c'est la tradition, l'usage, etc., ou le droit. Mais le fait, oui, les interventions des uns des autres sont très pertinentes. Parce que, voyez-vous, nous-mêmes, en tant que citoyens, nous sommes troublés parce qu'on ne nous a pas dit quelle est la règle, quelle est la norme qui peut y avoir droit. Or, voyez-vous, quand vous voyez dans le fonctionnement du drapeau en tant qu'emblème national, c'est un symbole. Mais aux États-Unis, tout le monde a un drapeau dans sa maison. Même le dernier des Vanupiers. Hein? Bon, ça dépend des cultures, de ce que les gens disent, parce que la fierté nationale, c'est toujours surtout ça. Ouais, même quand il y a des matchs de football, etc., des gens brandissent le drapeau.
Tout le monde,
il faut les arrêter dans la rue. Quelle autorité as-tu pour brandir un drapeau national? Ouais, le problème, donc, il faut la pédagogie. Le gouvernement a manqué de pédagogie. Chaque fois qu'ils disent des choses, il faut des explications. Et à partir de ça, les débats seront clairs. Et puis, il n'y aura même pas de débat, puisque si c'est clair, il faut le faire. C'est-à-dire que pour toutes les décisions, ouais, il faut toujours faire un peu de pédagogie, comme le camarade Jean-Baptiste l'a dit tout à l'heure. Il y a un texte qui dit, voilà l'usage, voilà ce qu'il faut faire.
Il faut expliquer ce
texte. Voilà, expliquer. Donc, tout ce que les gens disent est correct, mais il nous faut chaque fois de la pédagogie. Parce qu'on dit la loi est là, tout le monde est censé la connaître, mais en réalité, qui connaît la loi au fond? Donc, la loi, il faut toujours la répéter, nous faire de la pédagogie pour que nous puissions comprendre les choses. Parce que l'État, à travers le texte que nous les a livré Jean-Baptiste, fait une hiérarchisation au niveau des autorités.
Tout à fait.
Donc, tout est à ce niveau-là.
Ok, d'accord. Vous voulez ajouter quelque chose?
Oui. Et se basant sur l'exemple de Eric, vous prenez Lomé, la capitale, qui auparavant avait un préfet. Est-ce que vous avez vu le préfet avec sa voiture de commandement, avec des drapeaux devant? Jamais.
Non, c'est parce qu'on est dans la capitale.
Attends, pour la simple raison que le président de la République est là-bas. Donc, il ne peut pas. C'est quand il sort de la ville de Lomé qu'il peut brandir son drapeau. C'est ça les pratiques.
D'accord. Moi, je me dis, en fait, je pense qu'il y a plusieurs actions qui créent des conflits. Est-ce que le fait d'hisser le drapeau dans la maison d'un chef quartier crée un conflit d'hiérarchisation entre les autorités?
Non, il y a trafic d'influence de la part de ces.
Mais on a dit.
Non, de ces.
C'est un symbole de fierté.
Non, c'est un symbole de fierté. Non, écoute, il y a des chefs de quartier qu'on appelle aujourd'hui Togui, qui n'ont pas l'étude de Togui. Qui ne devaient même pas avoir l'étude de Togui.
ou Togbé. Mais ils s'arrogent ce droit parce qu'ils ont hissé le drapeau dans leur, dans leur maison ou dans leur domicile. Ça, il faut vite les corriger.
D'accord. Ok. Oui, Jean-Baptiste.
Oui, bon, moi, je me réfère toujours au code de la chefferie traditionnelle, puisque ce code dit clairement qu'il y a trois niveaux.
Oui.
Le chef de quartier.
Chef de village.
Chef de village et puis chef canton.
Voilà.
Maintenant, si nous avons ces trois niveaux de chefferie traditionnelle, je crois que, et j'ai toujours précisé que quand moi j'ai parcouru le code, je n'ai pas vu un endroit où on a dit que c'est seulement le chef canton qui doit ériger un drapeau. Oui, moi je n'ai pas vu
précision,
ça.
C'est la précision que le ministre a faite.
Mais
c'est,
et
non, c'est donc c'est pas écrit.
Ce n'est pas écrit.
C'est pas un arrêté.
C'est ça.
Finisse,
oui.
Bien sûr.
D'accord.
Bien sûr que oui.
Donc maintenant, mais ce qui est sûr.
Non, mais chez nous, par exemple, peut-être si ce n'est pas fait ailleurs, chez nous, par exemple, les chefs cantons s'appellent Tobouigan.
Tout à fait.
Et les autres chefs de village, oui, Tobouigan pour les chefs cantons et chef de village et quartier.
Tobouigan,
simplement.
Voilà.
Mais chez nous,
oui.
Chez nous, ça je peux vous le dire,
oui.
Hein, quand vous allez chez Togbe et Palipacho, il n'érige pas le drapeau togolais.
Il n'érige pas le drapeau, il est au Togo quand même.
Il est au Togo, il est déjà là-bas.
Il ne peut pas ériger autre drapeau.
Non, là, mais c'est comme ça. Une précision, c'est que même quand on donne l'arrêté de reconnaissance à ces chefs de quartier,
oui.
Et de village, on leur donne des drapeaux. À quoi ça sert, les drapeaux, voilà. Là qu'on leur donne?
Mais nous savons que on prend un chef
canton. À quoi ça sert secret.
Un chef de village,
oui.
C'est l'arrêt.
L'arrêt. Je n'en discute pas. Je n'en discute pas. À quoi sert ces drapeaux?
Je pense que la question de Jean-Baptiste,
c'est ça. À quoi sert, si ne doit pas ériger, à quoi sert ces drapeaux qu'on leur remet?
Ça fait partie des armoiries.
Des armoiries. On leur donne pour aller dans les tiroirs.
Il y a les pratiques.
Dans les tiroirs.
Il y a les pratiques.
Non. Il y a les pratiques. Soyons réalistes.
On va quitter le sujet.
Je vous le dis. Merci. Vous allez oui. Dans les lacs ou à Anero, c'est les trois chefs seulement qui érigent des drapeaux. Glidi et
Lolamé.
Avant Lolamé. Et chez les. Non. Adigo.
Oui. Les Adigo, oui.
Les Adigo. Nana Amé. Et Lawson, c'est tout.
Non, oui, le débat, d'accord, mérite toujours.
Si réellement on
doit quand même interdire au chef quartier du village de dresser des drapeaux, ça veut dire que quand on va leur remettre leur arrêté ou bien. on ne doit plus leur donner de drapeaux.
On a chef quartier.
Je parle
d'accord. Alors, on va quitter le sujet.
Chef quartier, ici, oui.
Non, je vais te donner des
exemples. Chef quartier, s'il vous plaît.
Allomé, ça pilule.
S'il vous plaît, Isidore.
Tous les chefs quartier, on est juste.
D'accord, s'il vous plaît. On quitte le sujet. On va s'intéresser à un autre sujet. On ne va pas rester sur ce débat éternellement. On quitte le sujet. Alors, Eric, c'est vous qui nous donnez notre sujet. Le prochain sujet, c'est par rapport. Enfin, vous écrivez à la une de votre journal, document budgétaire. J'étais sensible aux gens 2025, 9 institutions et 30 ministères concernés. C'est bien ça?
Oui, c'est bien cela. Je crois que depuis 2022, il y a le budget qui est fait chaque année, la loi de finances, à cette partie-là, qui concerne le document, ce qu'ils appellent le document budgétaire sensible aux gens. Donc, il y a eu une phase pilote où on a pris une institution et 9 ministères. Et avec ça, chaque ministère, puisque nous sommes dans un budget programme, chaque ministère a essayé, les 9 ministères et l'institution en question ont essayé de faire un budget qui traite directement des questions du genre. Alors, l'idée, c'est de permettre à la femme de participer quand même à tout ce qui concerne la gestion des affaires du pays et surtout de permettre à l'autonomisation surtout de la femme. Et donc, l'année qui a suivi, il y a eu 20 ou 21 ministères et encore une institution. Et donc, à partir de cette année 2025, finalement, c'est toute l'administration. On a pris les 9 institutions de la République et les 30 ministères. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, à partir de là, il y a un budget qui concerne le genre, c'est-à-dire aider la femme à s'ingérer dans la gestion de la chose publique.
D'accord.
Et je crois que c'est ce qui est fait aujourd'hui. Et ça, c'est arrimé directement à la loi de finances de chaque année désormais.
D'accord. Alors, oui, mais documents budgétaires sensibles aux gens, 2025, il y avait pour 2024. Mais Isidore, est-ce qu'on a vraiment l'impact comme cela se doit?
Non, avant de répondre à ta question, ne faisons pas d'amalgame.
C'est quoi l'amalgame?
Il y a deux genres. Le genre féminin et le genre masculin. Soit on est dans la promotion de la femme, on comprendrait. Nous dit que le genre, c'est pas ça, ne concerne pas seulement les femmes. Ça nous concerne aussi, nous les hommes.
Mais c'est un concept à clarifier. Parce que
oui, un concept à clarifier. Non, je passe sur le contrôle.
Non, attends.
Il y a beaucoup de confusion à ce truc-là. Je passe sous le contrôle de beaucoup de gens ici. On nous a fait les trucs sur le genre. Le genre n'est pas seulement féminin.
Oui.
Mais quand on parle du genre, ça concerne aussi les hommes. Non. Il y a aussi des hommes qui sont bribés dans leurs droits.
D'accord.
Non,
de la promotion.
Non.
Restons de la promotion.
Il faut une pédagogie dans ce sens-là.
Je suis pas
c'est très d'accord. Important oui. Pour qu'on puisse...
Je suis d'accord par rapport à ce que vous dites.
Oui.
Maintenant, parlons de la promotion de la femme.
Promotion de la femme.
Voilà.
Et non du genre.
Oui, d'accord.
Alors, dans la promotion de la femme, si tu permets, on va évoluer.
Isidore. Oui, ce n'est pas le Togo qui a initié cela. C'est les Nations Unies qui, depuis quelques années...
Les tests là.
Bien sûr.
Ça concerne aussi les hommes. Hein.
Bien
ça
sûr.
Concerne aussi les transgenres. Hein. Ça concerne aussi beaucoup de... Mais les GLBT aussi. Hein.
Isidore.
Faisons très attention.
Dès qu'on propose un test sur le genre, il faut suivre un peu le document. Parce que ici, on est en train de parler de la femme directement.
Alors,
chez nous, il faut lire notre constitution. Chez nous, on n'a pas encore le droit des transgenres et autres dont il parle. Il faut faire aussi attention. Parce que tout ce qui se fait, c'est par rapport à notre constitution. On ne peut pas parler du genre en faisant allusion au transgenre, alors que notre constitution ne l'établit pas.
Il faut seulement donner une place aussi au genre masculin.
Oui, mais Isidore, je voudrais le vocable, c'est un problème.
C'est-à-dire que c'est comme d'habitude dans nos sociétés, c'est les hommes qui dominent. Les sociétés sont faites par les hommes pour les hommes. Donc, quand on a sorti ce terme de genre, c'était surtout pour la femme. Mais, comme il l'a dit, effectivement, les mots doivent être très précis.
Tout à fait.
Parce que la politique se fait avec des mots. Quand ce n'est pas clair, eh bien, ça va dans tous les sens. Donc, ce que Isidore a dit n'est pas faux, dans la mesure où ça peut concerner l'homme aussi.
L'homme aussi.
Mais, comme il y a un usage, comme l'a dit Eric, c'est l'homme qui domine dans la société, qui écrase la femme. Donc, quand on parle genre, ça veut dire que ce n'est pas l'homme en général. Ça veut dire dans la politique, tu vois.
Ouais.
C'est ça la confusion.
D'accord. Hein? Maintenant, je pense que la clarification...
Ma question, justement, c'est de savoir déjà avec cette promotion... Il y a une catégorie de femmes, hein, dites émancipées ou évoluées, mais qui écrasent les autres femmes.
Qui ont plus le devant de la
chose. Pour se constituer leur manne.
C'est quoi cette catégorie de femmes dont vous parlez?
Les intellectuelles. Les replacées. Celles qui décident.
au détriment de nos mamans qui vendent Zomi et Aïmolou dans la rue. Si on veut parler de genre, moi je pense que c'est vers celle-là qu'il faut y aller.
D'accord. Jean-Baptiste, est-ce que vous avez aussi la même appréhension de la chose?
Je crois que le problème que nous avons est au niveau de ces terminologies qui font foison aujourd'hui, c'est que on veut faire la promotion de la femme. Mais cette promotion-là, ça ne, il n'y a pas une décentralisation en bonne et due forme de cette promotion. Parce que, comme l'a dit mon ami Isidore tout à l'heure, on remarque une caporalisation et une appropriation d'une minorité de ces femmes qui font croire que quand on parle de la promotion du genre, ce sont elles qu'on met devant et puis les autres sont écrasées. Ce n'est pas, ça ne devrait pas être le cas. Le budget, je ne l'ai pas encore parcouru en entier pour savoir si réellement les chiffres que notre ami a placés dans son journal sont vraiment exacts, mais il faut faire en sorte que réellement, si on veut faire la promotion de la femme, ce n'est pas une catégorie de femmes qu'on doit promouvoir. Il faudrait que toutes les catégories sociales, surtout celles qui sont même c'est dans
surtout
les...
Surtout pour les déshérités.
C'est ça, les déshérités, ceux qui sont dans l'agriculture, ceux qui sont dans les ménages, tout ça là, on doit faire en sorte que les politiques de promotion puissent les atteindre.
Les veuves.
Puissent les atteindre. Parce que je donne un exemple palpable. Il y a quelques années où on dit qu'on fait, comment on l'appelle, c'est l'ANADEB qui fait, comment on appelle, les filets sociaux. Ces filets sociaux où on donnait, je crois, 15 000 aux plus démunis à chaque trimestre. Nous avons des exemples palpables qu'on ne peut pas dévoiler sur cette antenne où il y a des gens, on a recensé des gens, mais à cause de la politique politicienne, on a dit que ces gens-là, ils ne votent pas pour le pouvoir, ils votent pour l'opposition.
Mais c'est
donc, oui, justement, c'est ça. C'est pour donner des palpables.
Je connais des quartiers.
C'est ça. Vous ne pouvez pas bénéficier des filets sociaux parce que vous votez pour l'opposition. Si vous voulez, je peux donner des villages.
Adam n'a pas encore parlé. Oui. On donne la parole à Adam.
Moi, je pense que cette question du genre ou de promotion de la femme, c'est vrai lorsque vous prenez ces femmes-là qui sont plus ou moins arrivées. Mais moi, je parle du concept d'une femme accomplie. C'est quelle femme? C'est celle-là qui assure la continuité de la vie par l'appropriation, mais en même moment qui éduque la nation. Parce que lorsque vous les prenez, elles sont des revendeuses, etc. Mais la politique, cette politique-là de promotion, je pense que les femmes qui sont arrivées à des postes de décision sont véritablement intolérantes vis-à-vis de ces femmes-là. Et la plupart de ces politiques, lorsqu'ils sont conçus, les politiques sont conçus à leur faveur, tout simplement. Lesquelles de ces politiques-là vous trouvez véritablement qui va en faveur de ces bonnes dames-là? Or, ces mêmes dames, moi je connais des dames qui vendent, ne serait-ce qu'à des mains, mais qui sont arrivés à envoyer leurs filles en Occident Europe. Pour aller étudier. Je connais ce que je dis, ce n'est pas, je sais pas dans les blabla. Je connais, je peux vous dire des noms qui ont vendu à des mains, tout simplement parce que elles ont constaté que celles-là qui sont arrivées à des postes de décision prennent des décisions qui vont à leur défaveur et qu'elles-mêmes aujourd'hui sont déterminées à envoyer leurs filles arriver à ce niveau pour que demain, cette politique-là soit réajustée.
Donc, on donne la parole au professeur. Professeur, est-ce que, d'une manière ou d'une autre, est-ce que ce n'est pas que nous voudrons aussi redorer notre blason à l'extérieur? C'est pour cela que nous mettons en avant même aussi cette question de promotion de la femme.
Non, aujourd'hui, c'est la mode. C'est la mode. La promotion des femmes, les femmes. Ouais, même au niveau des ONG. Vous voyez? Les associations de défense des droits de l'homme souffrent beaucoup. Si vous avez une association de femmes, elles reçoivent des centaines de millions parfois. Elles ne savent même pas comment dépenser ça. Parce que la femme, c'est à la mode. C'est devenu à la mode aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on en fait concrètement sur le terrain? Nous avons parlé des déshérités. C'est pour les femmes déshéritées. Ce n'est pas pour les femmes riches, les nanabins, qui sont même mieux que les hommes en général. Donc, si cette politique ne va pas vers les déshérités, parce que les déristés, c'est pas seulement les femmes, c'est les hommes aussi en réalité. Donc je crois que au niveau des femmes, c'est celles qui sont les plus démunies, les plus faibles dans la société, etc. Hein? Quelqu'un, notre ami vient nous parler de femmes qui vont à des mains, etc. Donc ça dépend pas du métier que tu fais, mais des moyens, des revenus de ton métier. Est-ce que ça te permet de vivre confortablement? Est-ce que tu peux scolariser tes enfants, te soigner quand tu es malade, etc. Faire plein d'activités sociales normales. Hein? Parce que prendre 3 repas aujourd'hui au Togo, c'est devenu un luxe. On te prend pour un riche si tu fais 3 repas par jour. Mais c'est scandaleux. Ça veut dire que la situation est grave. Donc, si on parle de genre au niveau de la promotion des femmes, ça doit toujours, dans mon entendement, aller vers les femmes démunies, les déshéritées.
D'accord. Notre temps est déjà... Allez, oui, Eric? Oui, ben voilà, on va rapidement donner la parole à nos auditeurs, mais on reviendra là-dessus sûrement peut-être lors du dernier tour de table. Eric, vous pouvez dire ce que vous avez à dire et vous pouvez nous appeler sur le 90 86 35 35 91 36 63 75, c'est nos 2 numéros sur lesquels vous pouvez réagir et aussi sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs.
Le plaisir pour l'acquérir. Écoutez Canal FM 93.5.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. C'est le principe de l'émission, vous le savez très bien. 90 86 35 35 91 36 63 75. Premier auditeur en ligne. Allô?
Oui, allô?
Bonjour.
Bonjour.
C'est... J'oublie un peu le nom.
Comment vous allez?
Ça va, c'est Patrick.
C'est Patrick.
Juste moi, c'est Patrick.
Alors, bonne année à vous tous là-bas.
Merci beaucoup.
La santé surtout.
Merci.
Alors, le professeur est toujours avec vous?
Oui, professeur est toujours avec nous.
D'accord. Je l'ai suivi avec une attention particulière. Il a si bien décortiqué aussi l'actualité, mais sauf que il y a un niveau où il a heurté un peu ce qui freine l'évolution de l'Afrique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il a bien parlé que nos langues soient en voie de disparition, c'est un cas, et c'est bien, mais en somme, à l'heure où nous parlons présentement, est-ce que vous ne voyez pas que le développement de l'Afrique passerait par l'allègement des frontières entre les pays, l'union entre les pays? Quand les gens critiquent la CEDEAO c'est un quartier dans un canton ou un village dans un canton, l'Union africaine même, qu'est-ce que l'Union africaine fait? Les 53 ou 54 pays d'États d'Afrique, mais si réellement on n'a pas de frontières entre nous, si nous-mêmes, nous ne sommes pas nos propres bêtes noires, ben, en un an, je ne vois pas l'Union européenne, je ne vois pas les États-Unis qui peuvent encore nous dépasser comme c'est le cas présentement. C'est parce que nous-mêmes, nous sommes, nous constituons, c'est-à-dire notre propre... c'est parce que c'est, je ne sais pas quoi, notre propre évolution. Nous-mêmes, nous ne nous permettons pas d'évoluer. C'est ça le problème, en fait. Et pour finir, vous avez vu comment les Européens s'organisent. Quand un pays, temps par exemple, pourquoi ne pas faire ce système en Afrique? Le Mali est attaqué, c'est que la Côte d'Ivoire est attaquée. Le Bénin est attaqué, c'est que l'Éthiopie est attaquée. Et avec tout ça là, pourquoi les autres pays ne vont pas avoir peur de nous? Bonne émission.
Merci beaucoup Patrick pour votre intervention. 90 86 35 35 91 36 63 115. Les 2 numéros sur lesquels vous pouvez réagir. On va donner la parole à un autre auditeur. Allô?
Oui, allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Oui, comment vous allez?
Oh, je vais bien, vous?
Ça va aussi, c'est Evangeliste Senghor.
Voilà, bien heureux. Hein?
D'accord, et nous voulons réciproque.
Je vous souhaite la santé du fer, vous la journaliste. Et transmettez aussi mes vœux de santé aussi aux autres journalistes togolais.
D'accord.
Parce que c'est avec la santé qu'on peut tout faire. Bon, je voudrais souhaiter la même santé aussi à notre chef de l'État, mon grand frère Fonia Simbe, et tout son état-major. Moi, je voudrais dire tout simplement ce matin que cette année 2025, vous savez, le président, notre président n'a pas de problème. Ceux qui sont autour et qui ne veulent pas que ça change, pour qu'ils puissent profiter, et il faut qu'ils mettent de l'eau dans leur vin. Nous sommes là pour un petit temps sur la terre.
Évariste Senghor.
Oui, mon père.
Et justement, nous avons discuté bon, de beaucoup de sujets.
Je viens du champ là, je viens du champ, je voudrais intercepter, je sais pas, c'est parce que je voudrais parler un peu, je ne sais pas si vous avez touché du doigt ce qui se passe actuellement au Ghana et au Togo.
Non, mais on est resté au Togo, on a parlé du
on
Togo.
On est resté au Togo. Bon, ok. Donc, juste, il faut qu'ils y répondent. Bon, je voudrais quand même parler un peu des drapeaux. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que je reviens du champ là, je vous ai intercepté. Bon, vous savez, avec les drapeaux sur les chefs, quand même, ce problème-là, pas un problème, ce truc-là, ça, c'était là depuis avec vraiment le président de la République mondiale, avec ce, le nouveau gouvernement, c'est autant même bien avant notre papa et là demain. Je crois que le professeur a dit tout à l'heure, je pense, c'est lui ou pas, il dit non que ces drapeaux sont là juste pour que vos anciens étrangers arrivent, pour qu'ils puissent voir que ici, c'est la maison du chef. C'est-à-dire le chef représente maintenant l'administration. Vous voyez, donc c'est quelque chose parce que moi je connais. Donc je crois que vraiment c'est un problème où il ne faut pas qu'on soit différé et on dit n'importe quoi. D'accord. Il faut informer pourquoi vous prenez cette décision. Je vous remercie.
D'accord, merci.
Et que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le Togo.
Merci beaucoup, Évangéliste Senghor, 90 86 35 35. Allô?
Oui.
Bonjour.
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
C'est Pélé.
Oui.
J'espère que vous allez bien.
Merci.
D'accord.
Bonne heureuse année.
Merci.
Il y a un ministre là-bas, ou bien?
Non, 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 il n'y a pas de ministre. C'est professeur Togwata Pédouama qui est avec nous.
Le grand Joël. Je pense que vous parlez de drapeaux qu'on interdit maintenant pour dans les quartiers, les chefs quartiers ou autres. Je pense que je ne sais pas si c'est la nouvelle constitution, c'est-à-dire la cinquième république qui parle comme ça. Pourquoi on avait accepté à l'époque jusqu'à si c'est maintenant?
Non, je ne pense pas que c'est la nouvelle constitution. Hein. C'est un recadrage que le ministre a fait hier.
Ah bon, je pense que c'est ce que nous, on a l'habitude de le dire. Le RPT uni, il n'a pas d'amis, il n'a pas d'ennemis. Tout ça là avait servi le RPT venir. Ce sont les airs machins du RPT venir. C'est ça. Ce sont eux qui portent toujours le drapeau, c'est-à-dire les casquettes du RPT, pour être partout. Quand le RPT est partout, ils sont là. Quand le RPT a tout fini, il a les ennemis. C'est comme ça, ils sont. Le RPT uni, c'est comme ça. Donc, c'est clair et net. Eux aussi, mon cas, allait se garer à quelque part et on va faire face. C'est-à-dire, maintenant, c'est le RPT unir qu'on fait face maintenant. Il faut qu'on sache ça. C'est ça.
Merci, Pélé, pour votre intervention. Et merci pour votre intervention. 90 86 35 35. Madame Essie est là.
Allô? Oui, bonjour.
Bonjour, Madame Essie. J'espère que vous allez bien.
Coucou à tout le monde là-bas.
Oui.
Et puis voilà. Vous avez parlé de la lecture. La lecture, voilà. On a plus la tête pour lire beaucoup. À part les réseaux et tout. On peut soutirer des livres, des réseaux aussi, quoi. Avant, j'en achetais beaucoup, mais maintenant, on n'a plus la tête. Plus beaucoup la tête, avec tout ce qui nous arrive. Vous avez parlé des chefs traditionnels. Et ils sont vidés de, je sais pas comment je peux dire ça. C'est-à-dire, ils sont nommés ici en désordre et tout, si bien que ils font plus le poids. Moi, avant que ma mère ne crève, elle est gamienne. Je lui ai demandé si ça se passait comme ça chez elle. Qu'on nommait, on prend des papiers, ça vient, ça nomme des chefs comme ça. Elle me dit, elle n'a jamais vu ça. Que c'est un truc ancestral. Au fond, avec des cérémonies, tout ce qu'on veut. Mais ici, je sais pas comment je peux dire ça, c'est un truc, quoi. Pour le drapeau, c'est-à-dire aimer son pays, tout ça, là, les Blancs, ils sont des légalistes, ils respectent les lois de leur pays, de leur république, si bien qu'ils sont fiers de leur pays, qu'ils gagnent tant. Ils peuvent se battre, ils peuvent se battre pour sauver leur pays, comme qu'on voit en Ukraine là, où tous les Ukrainiens rentrent, les médecins, tout le monde rentre pour se battre avec son pays, pour sauver le pays et tout. Mais ici, bon, ben, la gouvernance a fait que on s'en fout, quoi. On s'en fout. Voilà, les gens ne respectent rien. Les constitutions sont brûlées. On fait ce qu'on veut. D'accord. On gère la République comme une épicerie.
D'accord. Voilà. Merci, madame. Merci pour votre intervention. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 115. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au Club de la Presse. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Votre nom, c'est?
C'est monsieur Edo de Pigny-Conakry.
Monsieur, pardon?
J'aimerais vous souhaiter une bonne et heureuse année.
Monsieur Edo, voilà, allez-y.
Et adresser un coucou spécial à monsieur Dimas Chikoté.
Ok.
Et saluer la mémoire de du doyen Lucien Djossou. Ok. Vous avez parlé de des drapeaux. Bon, on se demande si je suis citoyen et j'aimerais mettre le drapeau de ma nation. On ne sait pas en quoi est-ce que cela dérange. Puisque, finalement, avec tous les problèmes que nous avons dans le pays, je ne pense pas que c'est le drapeau qui va gérer la situation des Togolais. Donc, il y a beaucoup d'autres choses qui se passent à côté de nous. Et aujourd'hui même, le chef de l'État devait, il serait au Ghana. Donc, je pense que si on prend l'exemple sur les pays voisins pour passer aux choses concrètes, je pense que ça aiderait beaucoup mieux la population que ces petits problèmes politiques de gauche à droite. Merci beaucoup. Bonne journée.
Merci, monsieur Edo, pour votre intervention. 90-86-35-35. Allô?
Oui, alors.
Oui, bonjour.
C'est toujours évangélique, c'est encore. Hein. Vous savez, aujourd'hui, dans nos églises, nous aussi, nous avons le drapeau togolais. Hein, quand vous allez dans certaines églises, vous êtes pasteur. Bon, ça veut dire peut-être pour honorer notre
oui, pays. Mais dans les églises, vous ne hissez pas alors les drapeaux, évangéliste Senghor.
S'il vous plaît.
Vous ne hissez pas les drapeaux. C'est de ça qu'il s'agit.
Allô, si oui, vous pouvez mieux expliquer, s'il vous plaît, je vous en prie. J'ai dit, aujourd'hui, dans nos églises, c'est-à-dire qu'on a le drapeau de nationalité des autres pays et le drapeau togolais aussi. Ça permet qu'on ait un étranger. Il est fier, en qu'il est de nous, Togo. Bon, voilà. Mais si aujourd'hui, pour dire que. Non. Ça, je crois que c'est un faux problème, quoi. Il faut que le ministre de la décentralisation, celui-là, qui a amené cette loi-là, puisse faire ce qu'il y a lieu de faire. Ce n'est pas ce petit truc-là. Avoir un drapeau togolais quelque part, c'est pour honorer, parce que je l'ai dit tout à l'heure ici, qu'aux États-Unis, partout, il y a les drapeaux. Ouais, donc, il y a des choses sur lesquelles il faut faire, là. Merci beaucoup.
D'accord. Alors, merci, Evangeliste Senghor. C'est lui le dernier auditeur pour le compte de cette émission. Je lis cette réaction de Kofi de Zangera. Bonjour, Canal FM. Est-ce que les vrais problèmes des Togolais préoccupent vraiment nos autorités? Avoir le drapeau chez soi n'est pas l'amour pour sa patrie. N'est-ce pas les mêmes chefs qu'ils ont consultés pour leur 5e République? Je vois que les Émidiens voient très loin. C'est pourquoi ils n'ont plus le drapeau sur leur moto quand il y a match des éperviers. Merci. C'est Kofi de Zangera. Nous revenons au plateau pour faire un dernier tour de table et clôturer l'émission de ce jour. Mais bien avant, je voudrais qu'on donne la parole au professeur. Professeur, c'est vrai que Patrick vous a interpellé par rapport à un sujet, surtout concernant l'Afrique, justement, surtout concernant l'Afrique, le développement en Afrique. Et lui pense plutôt qu'aujourd'hui, il faut plutôt enlever les frontières que de parler plutôt alors des langues et ces autres qui sont à la base, qui doivent être à la base alors de notre développement. Pour lui, c'est que les frontières qui sont là, il faudrait qu'on les enlève et c'est ce qui va constituer même l'intégration et le développement de toute l'Afrique.
Non, les deux ne sont pas incompatibles parce que conserver les frontières telles qu'elles sont, c'est continuer aussi la politique coloniale parce que des Blancs se sont réunis autour d'une bière et se sont mis à dessiner des États sans nous consulter. C'est ça, vous voyez, par exemple, vous prenez le Togo, vous voyez le peuple Moba qui est divisé entre 4 pays. Hein? Attendez, je vais continuer. Togo, Ghana, Burkina Faso, Bénin. Hein? une seule nation, quatre frontières. C'est inadmissible. Hein? Donc, il faut que nous puissions, comme le dit l'intervenant, briser le cadre colonial. Parce que nous allons chez le voisin, nous sommes toujours, nous allons à Cotonou, on est comme à Lomé. Hein? On parle guingbé, on a les mêmes peuples, on a les mêmes cultures. Vous allez au Ghana, Accra, c'est la même chose. Hein? Vous allez au nord, vous allez au Bénin, au Ghana, c'est la même chose. Donc je crois qu'il y a une réflexion à faire sur l'État africain, l'État néocolonial. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça favorise notre essor ou ça nous retarde? Parce que quand des gens érigent des drapeaux partout, des frontières partout, mais les frontières, c'est fait pour racketter la population en Afrique. Hein? C'est pour que tout le monde mange, douaniers, policiers, militaires, tout le monde mange. Hein? Et moi, j'ai gestionné une fois la Côte d'Ivoire jusqu'à 400 km à l'intérieur de la frontière, mais je me suis demandé, dans un grand bus, je me suis demandé si les transporteurs faisaient encore des bénéfices. Parce qu'on les racketait sur 400 km, vous vous rendez compte? Mais c'est trop! Hein? Et pourquoi faire encore? Parce qu'il n'y a aucune sécurité. C'est eux-mêmes qui créent l'insécurité en racketant les gens. Donc, si nos frontières, on ne les abolit pas, c'est des problèmes. Parce que ça appauvrit le pauvre. Vous voyez, ce que les gens ne comprennent pas souvent au niveau de la corruption. Par exemple, vous voyez, la dame, elle fait sa récolte sous les monts Agou là-bas, de maïs. Elle veut venir vendre ça au marché de Rancopé ici, à côté de nous. Mais tout ce qu'elle doit payer en route, et le chauffeur aussi en route, alors qu'elle a fait son calcul que si je viens vendre tout mon lot de maïs, bien, la commerçante pourra vendre ça à 400 francs le bol. Mais avec tout ce qu'ils ont dû payer en route, ben, on vendra le bol à 600 francs. Ben, c'est nous qui sommes victimes de toute cette corruption. Mais les gens ne se rendent pas compte. Mais c'est nous qui payons, qui sommes les victimes de toute cette corruption. Donc, abolir les frontières, c'est déjà nous libérer de tout ce racket.
D'accord. Hein? Alors, professeur, est-ce que vous comprenez le fait que, puisque c'est aussi la deuxième partie alors de la question de Patrick, est-ce que vous comprenez le fait que déjà nous sommes dans une institution sous-régionale comme la CEDEAO, mais quand on attaque le Mali, la Côte d'Ivoire se dit peut-être ne pas être concernée, d'autres pays également se disent ne pas être concernés, et nous y sommes comme ça.
Oui, mais la CEDEAO, c'est quelque chose de purement nominal. Dans la réalité, c'est la CEDEAO des chefs d'État. Ce n'est pas la CEDEAO des peuples. Parce que les peuples veulent la liberté, veulent les droits de l'homme, veulent le respect de tout, veulent le progrès, un mieux-être, hein, veulent manger à leur faim. Donc, toutes ces frontières, c'est fait pour nous diviser. Hein? Et le drame aussi, avec, vous voyez, le Sahel, avec tous les putsch qui a eu lieu, etc. Donc, c'était pour faire des transitions démocratiques, soi-disant. Mais des gens s'installent maintenant comme militaires définitifs, chefs d'État définitifs. Et en plus, hein, vous voyez, on se bombarde tous généraux. Parce qu'on a les étiquettes les tiroirs.
On a un maréchal aussi.
Oui, et je constate que si j'interroge l'histoire, tous ceux qui avaient pris le pouvoir, Sankara, Kadhafi, Rawlings, qui ne se sont pas mis de galons, ils ont fait du sérieux. Tous ceux qui sont bombardés, généraux, maréchaux, c'était du cinéma, ils ont détruit leur peuple.
D'accord. Nous allons faire maintenant le dernier tour de table avec nos confrères Adam. Oui, votre réaction, si vous avez un mot à dire pour clôturer l'émission.
Mon dernier mot ne s'adresse pas forcément au sujet abordé lors de l'émission, mais il y a eu des cris de cœur lancés par une catégorie de Togolais, notamment ceux qui ont souscrit par le passé. Je pense qu'il y a longtemps déjà que ce problème de trading dur. Et justement, les gens estimaient que cette année soit la bonne, puisqu'il y a des gens qui sont détenus, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas d'issue réservée et à ceux qui ont subi, en tout cas, cette maladresse en un moment donné. Donc, il faudrait quand même que cette année, l'État puisse pencher sur ce dossier pour pouvoir donc libérer certains qui sont toujours dans l'attente.
D'accord. Eric ?
Oui. Je voulais peut-être compléter ce qu'on disait sur le document budgétaire sensible au genre, en disant que ce qu'on a recommandé aux différents ministères et institutions de la République, c'est d'élaborer des projets et programmes liés au genre, au-delà du budget du ministère, budget de fonctionnement, il y a un budget qui est lié aux gens et on demande que l'élaboration de ce document-là soit faite avec des femmes. Parce que en réalité, c'est elles qui sont concernées par ce document. Et donc, elles doivent participer à l'élaboration de ces documents. De l'autre côté, on a mis beaucoup l'accent sur l'éducation de la femme. Et donc, il y a l'éducation, il y a l'alphabétisation de la femme. On recommande que dans l'administration, qu'on fasse également la promotion de la femme.
D'accord.
Et que, bon, il faut les porter à des postes de responsabilité. Parce que avant ce qui se faisait, la femme peut avoir une bonne éducation, être ancienne dans le truc, mais quand elle arrive à un certain niveau, elle est bloquée.
D'accord, ok. Jean-Baptiste, rapidement, 30 secondes, on va y aller.
La précision qu'il faut quand même faire, c'est par rapport à cette histoire de drapeau, que je crois que le problème des Togolais est ailleurs. La préoccupation des Togolais est ailleurs, surtout que le chef de l'État parle de l'année 2025, une année d'ancrage de la démocratie. Il faudrait que la démocratie réelle que le peuple togolais attend vienne. Ce n'est pas une démocratie de façade faite par une minorité.
Ok, merci. Oui, Isidore.
Parlant du genre, moi je pense que ce qu'il faille faire, faut pas faire la promotion de la médiocrité. À compétence égale, que la femme puisse être promue. À compétence égale, que la femme puisse être promue.
D'accord.
C'est ce que moi je voulais
d'accord,
dire.
D'accord, merci, professeur. Voilà, oui, on va vite terminer. Oui, professeur, s'il vous plaît, si vous avez un mot de la fin pour clôturer l'émission rapidement. Puisque notre temps est déjà avancé.
Non, bon, que le Togo puisse changer dans le sens qu'il le souhaite, c'est-à-dire notre ami Jean-Baptiste vient de dire tout à l'heure qu'il nous faut la liberté, c'est-à-dire la démocratie. On nous dit souvent que c'est l'affaire des Blancs. Non, c'est pas l'affaire des Blancs. La démocratie est tout simplement la liberté mise sous forme institutionnelle.
D'accord.
Tous les peuples méritent la liberté.
D'accord. Merci beaucoup, professeur Ouata Pedouama, d'être passé alors dans cette émission. Ça fait toujours plaisir de vous avoir dans cette émission. Merci, Jean-Baptiste Atisso, d'être passé dans cette émission. Isidore Color, merci d'être passé dans cette émission. Merci aussi à Eric Pacoudio-Dosson d'être passé. Adam Adrono, merci d'être passé. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis. On se retrouve demain à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission. Club de la presse, d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.
Le plaisir pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.